André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, deuxième cassette, deuxième face, page 45. Gaspard songea qu'en fait d'originalité, sa tante en détenait une bonne part. Il lui donna raison néanmoins et retourna dans les bois. À tout hasard, il se rendit en un lieu où la route qui descend de Lominval vers la Meuse lointaine fait deux longues courbes pour franchir le ravin au milieu de la forêt. Elle est bordée d'un talus très abrupt que recouvrent des herbes verdoyantes. Gaspard eut la surprise de découvrir des girolles dans un creux et en les cueillant, il se fit la réflexion qu'il serait possible de poursuivre le cheval et de l'acculer à la limite d'un de ces talus qui tombait sur la route. Il s'en emparerait et si personne ne revenait réclamer le cheval, si Gabriel Berlicot n'y voyait pas d'inconvénient, Gaspard en deviendrait le légitime propriétaire. Bien qu'il considérât qu'un tel projet demeurait assez chimérique, le lendemain, Gaspard se munit d'un licou et après avoir fait contre toute attente une nouvelle récolte de champignons, il se mit en quête. Le cheval pie circulait toujours dans la même région du bois. Des gens de Lominval l'avaient aussi aperçu, mais ils ne s'y intéressaient nullement. « Un cheval de Romanichel, » disait-il, sans penser plus loin. Pour Gaspard, il y avait autre chose qu'il n'aurait pas su expliquer. Il était séduit par une beauté singulière qu'il voyait se dessiner aux flancs ardents de la bête. Ce jour-là, il n'avait pas fait 200 pas dans une allée que le cheval vint au-devant de lui, puis aussitôt fit demi-tour. Gaspard suivit sa trace et après un jeu de cache-cache autour d'un taillis serré, il fut étonné de parvenir à une prairie très exiguë dont la bordure descend brusquement sur la route. Le cheval paissait au milieu de la prairie. Gaspard s'avança avec une lenteur calculée. Le cheval continuait à paître en se déplaçant de telle façon que peu à peu, il arriva presque à la limite du talus abrupt qui dominait la route d'une dizaine de mètres. La manœuvre de Gaspard prenait donc excellente tournure et sa chance était encore favorisée du fait que l'animal se trouvait entre deux hauts buissons d'épines. Un peu en avant du buisson de droite, il y avait un genévrier. Il suffisait à Gaspard de faire encore quelques pas et il toucherait la bête. La situation se révélait si conforme à l'espoir qu'il avait formé que Gaspard demeura de longs instants sans oser bouger. Enfin, il se décida à parler d'une voix douce. Le cheval leva la tête pour l'écouter. Ses flancs se soulevaient avec calme. C'était comme s'il s'avouait déjà conquis par la patience du garçon. Gaspard approcha. Il tendit une main pour flatter l'épaule de la bête, tandis que de l'autre main, il saisissait le licou dans sa blouse. Ce fut à ce moment-là que le cheval pie montra vraiment ce qu'il savait faire. Sans qu'aucun signe l'ait annoncé, il se détendit, sauta par-dessus le genévrier et se perdit aussitôt dans les bois, prenant le chemin même par où Gaspard était venu. Le garçon demeura stupéfait, les yeux sautement fixés sur la route en contrebas, taillée au flanc de la pente et dominant la pointe des sapins qui s'élèvent du fond du ravin. Il entendait la galopade étouffée par la terre des bois. La galopade se perdit dans le lointain. Gaspard n'avait plus qu'à revenir à l'hôtel. Il s'éloignait déjà lorsqu'il entendit de nouveau la galopade, mais sonore et joyeuse cette fois. Le cheval devait courir sur la route. Gaspard fit demi-tour et se penchant au-dessus de l'escarpement, il aperçut la robe blanche et noire qui filait entre les arbres. Le cheval suivait la route dans le sens de la montée et revenait vers Gaspard, dont il était encore séparé par les deux étages de talus que contournaient les boucles. Cette fois, Gaspard eut le sentiment que la plus sûre occasion de prendre leur cheval par surprise allait s'offrir à lui. Il semblait nécessaire que la fatigue freine bientôt l'élan de l'animal et ce serait facile de lui barrer le chemin en sautant du talus au bon moment. Gaspard se laissa glisser sur la pente rapide de façon à se tenir à l'affût au milieu des hautes graminées, à quelques pas au-dessus de la route. Le cheval tourna la première boucle, puis la seconde. Lorsqu'il fut tout prêt, Gaspard s'élança. Son pied se prit dans une racine. Gaspard connut une fois de plus, ce ne devait pas être la dernière, comment se déroule une catastrophe. Au moment où il tombait en avant, il eut la vision du ciel qui surplombait le vaste moutonnement de la forêt. La chute fut un peu amortie par l'herbe, mais le garçon passa cul par-dessus tête et eut le beau s'agripper aux plantes, il lui fallut rouler jusqu'au bas. La terre et le ciel passèrent tour à tour devant ses yeux. Le dernier bond que fit Gaspard là où le talus devenait vertical le projeta vers le milieu de la route. Il pensait s'écraser sur le goudron lorsqu'il sentit entre ses mains la crinière du cheval. Son corps tomba à plat en travers du dos de la bête. Finalement, il resta suspendu à la crinière et accroché par une jambe au cou du cheval. Après des efforts extraordinaires, il parvint à se rétablir et se trouva dans une position qui aurait été convenable s'il avait su monter à cheval. La bête n'avait pas bronché sous le fardeau inattendu qu'elle venait de recevoir et elle avait maintenu son allure. Il ne fut guère question pour Gaspard de sauter à terre et il résolut d'attendre patiemment d'être projeté sur la route ou bien que le cheval s'arrêtât. Toutefois, au bout de quelques minutes, il put espérer qu'il s'habituerait à ce galop. Il restait allongé sur le cou du cheval. Ses jambes s'envolaient de temps à autre et il ne comprenait guère comment il parvenait à tenir son assiette. Mais justement parce qu'il ne comprenait pas, il se sentit pénétré d'une confiance nouvelle. Même s'il allait tout à l'heure s'écraser sur la route, ça aurait été beau de s'être maintenu aussi longtemps. Le cheval filait bon train et ne paraissait nullement disposé à modérer sa course, pareil à un beau vent d'été. Après avoir remonté la route jusqu'au dernier tournant, il s'élança dans une allée forestière et il rejoignit une autre route qui descendait par le travers des futaies. Puis il prit un large sentier qui le conduisit dans une ancienne coupe. Cette coupe semblait fermée de toutes parts et le cheval modéra son train. Gaspard pressentait que l'affaire touchait à son dénouement. Le hasard qu'il avait jeté sur le dos du cheval lui semblait fantastique, mais à tout prendre, peu différent des mésaventures qui lui étaient survenues pendant sa jeunesse. Il supputait que cette affaire ne l'aurait pas entraîné trop loin de Lominval et qu'il serait de retour assez tôt pour n'avoir à donner aucune explication. Cette fois, personne n'irait faire des gorges chaudes et prétendre qu'il n'aurait pas dû se trouver là. Peut-être même réussirait-il à passer le licou au cheval et il le ramènerait au village. Le cheval avait pris le trot et suivait la limite de la coupe. Quand il arriverait à l'extrémité, Gaspard profiterait de la moindre hésitation pour sauter à bas. Comme il l'avait prévu, le cheval, en parvenant à l'angle de la coupe, hésita pendant un instant. Gaspard se coucha sur son cou afin de se laisser glisser. Mais au même instant, l'animal fit un bond prodigieux. Gaspard, qui s'était vigoureusement accroché, réussit encore à se maintenir. Le cheval fonçait entre les hautes futaies, en dehors de tout sentier, et à partir de ce moment, il prit une telle allure que Gaspard se crut vraiment transporté dans un autre monde. C'était un galop d'une légèreté si étonnante que l'animal semblait ne pas toucher la terre. De temps à autre seulement, lorsque le terrain changeait, il prenait un trot saccadé et ses sabots faisaient alors un roulement qui emplissait Gaspard de terreur. Dès lors, le garçon n'eut plus aucun désir de sauter et il lui sembla qu'il était comme attaché au cheval et qu'il ne devait sous aucun prétexte lâcher prise. Après avoir parcouru une immense futaie de hêtres, ils arrivèrent dans une allée bordée de chênes dont les feuillages énormes s'élevaient vers un ciel maintenant nuageux. Après les chênes, il y eut des taillis obscurs, puis d'autres taillis clairsemés qui étaient peuplés de sorbiers et ornés de chèvrefeuilles. Plus loin, des genêts avec des bouleaux. On traversa aussi une forêt d'épicéas où le cheval glissa sans bruit dans un sentier couvert d'aiguilles. Gaspard apprit donc qu'il n'y avait pas une forêt, mais 1000 forêts, dont pas une ne ressemblait à celle de Lominval. Il passa dans des sous-bois marécageux, où les herbes pâles et les campanules s'élevaient au milieu des ombres. Un autre bois était fait presque uniquement de peupliers morts. Après quoi, on découvrait une clairière emplie de fleurs rouges et de myosotis. C'est impossible de tout décrire. Comme on traversait des rocailles semées de bruyères, les fers de cheval lancèrent des étincelles et ce fut à ce moment que l'orage éclata. Un orage qui emplissait les 3/4 du ciel. Le vent s'élevait. Cette région de bruyère permettait de voir au loin le soleil qui, au même moment, brillait dans l'azur à l'horizon de la forêt. La lumière rasante faisait paraître d'un noir intense les nuées qui furent déchirées bientôt par 100 autres lumières lorsque les éclairs les parcoururent. Certains éclairs, doubles ou triples, fondaient au milieu des bruyères et une pluie cinglante tomba. Le cheval s'arrêta un instant. Il se mit à hennir. Gaspard aurait pu descendre cette fois. Il ne le voulut pas de crainte de rester seul sous l'orage. Au contraire, il serra le cou de l'animal avec tendresse et le cheval repartit bientôt d'un pas plus calme tandis que la tempête se déchaînait. Le soleil brilla encore pendant quelques minutes à l'horizon et Gaspard l'apercevait vaguement au travers des nappes de pluie. Puis, tout l'éclat du jour disparut. Ayant franchi la région des bruyères, le cheval entra sous une futaie de gros ormes. À chaque instant, Gaspard s'attendait à voir un éclair écraser l'un des arbres, mais la foudre capricieuse tombait au hasard. Gaspard se souciait peu de la pluie qui collait ses vêtements à son corps. Il regardait avec une angoisse émerveillée les éclairs qui roulaient leurs boules de feu entre les troncs. De temps en temps, une branche éclatait avec un long craquement. À l'extrémité de la futaie, où le terrain s'élevait peu à peu, il y avait une butte que le cheval gravit. Puis ce fut une longue ligne de crête où des érables nains s'élevaient. Le cheval tournait autour des érables. Où veut-il me conduire ? Songeait Gaspard. Et puis il dit à haute voix, « Où veux-tu me conduire ?» Le cheval s'arrêta, hennit doucement, puis repartit. L'orage s'apaisait peu à peu. Les lignes de pluie se dissipèrent, mais ce fut vers le bas et non dans le ciel que soudain les perspectives s'ouvrirent tout d'un coup. Gaspard aperçut alors un énorme ravin qui se creusait presque sous les pieds du cheval et dévalait dans l'immensité jusqu'aux rives d'un grand fleuve. « La Meuse !» murmura Gaspard. Jamais il n'avait vu la Meuse. Il ne s'imaginait pas qu'elle coulait au milieu des forêts. Il serra le cou du cheval entre ses deux bras. Le cheval comprit le désir de Gaspard et demeura immobile tandis que l'enfant contemplait le fleuve. Les nuages fuyaient maintenant. C'était un terrible mais rapide orage. Bientôt le ciel bleu apparut. Il ne faisait pas tout à fait nuit. Le long du ravin, un cerf descendait au fleuve. Le cheval reprit sa marche au moment où les étoiles se mirent à briller. Il se dirigea vers le fond de la vallée par un chemin en pente douce. Il passa derrière les murs d'une usine qui surgissait de la forêt. Mais il s'éloigna aussitôt et remonta une autre pente. D'en haut, Gaspard vit briller une petite ville dont les lumières se reflétaient dans la Meuse. Le cheval regagna le fond de la forêt. « Où allons-nous dormir ?» murmurait Gaspard. Il ne songeait plus à Lominval. Il avait l'idée qu'il ne reverrait plus le village. Ce qu'il ferait, comment il vivrait, il ne se le demandait pas. La faim le tiraillait, cependant. Le cheval reprit un train d'enfer à travers des arbres que l'on distinguait à peine dans l'obscurité. Gaspard sentit d'énormes branches qui passaient au-dessus de sa tête et faisait en passant une sorte de souffle. Il se colla contre la crinière et il y cacha son visage. Il avait les yeux pleins de larmes. « Est-ce que tu veux me tuer ? » murmura-t-il. Ce n'était pas la mort qui l'effrayait, mais la pensée que le cheval, qu'il avait commencé à aimer, le trahissait cruellement. Toutefois, après une heure d'angoisse, l'animal prit le petit trot et Gaspard put apercevoir à travers ses larmes une lande où s'élevait une maison en ruine. Un pignon assez élevé, recouvert d'ardoises. Derrière le pignon ne subsistait parmi les pierres entassées qu'une petite remise dont les murs restaient à peu près intacts et dont la toiture était crevée en plusieurs endroits. Le cheval s'arrêta au seuil même de la remise. Les larges portes qui avaient été arrachées pourrissaient dans l'herbe, sans doute depuis de nombreuses années. « Voilà un lieu étrange !» murmura Gaspard en sautant à terre. « Les touristes sont rares dans cette région, » répondit une voix. Gaspard aperçut au fond de la remise un homme qui était assis sur une pierre et s'occupait à entretenir un feu maigre dont la fumée s'échappait par un espace ménagé entre le mur et le toit. « Est-ce que je puis entrer ?» demanda Gaspard. « Vous pouvez entrer, bien sûr, vous et votre cheval. Vous vous sécherez auprès du feu. Il a fait un bel orage, n'est-ce pas ?»«
Un très bel orage, » répondit poliment Gaspard.
L'homme était habillé comme un vagabond. Gaspard alla s'asseoir sur une pierre à côté de lui. Le cheval s'était mis à manger un peu de foin qu'il y avait dans un coin de la remise.
« Je ne suis qu'un simple passant comme vous, » déclara le vagabond. « J'ai renoncé à vivre dans les villes où les hôtels sont trop chers. J'aime la forêt. Prenez un peu de pain. »
« Je vous remercie, » dit Gaspard. « Je ne voudrais pas. »
« Je vous en prie, » dit l'autre.
Gaspard dut convenir en lui-même qu'il pénétrait sans doute dans un monde d'originaux, selon l'expression de sa tante Gabrielle. Ce jour-là, il avait vu déjà bien des choses dont il ne soupçonnait pas la réalité, et l'accueil du vagabond lui fournissait un nouveau sujet d'étonnement. L'homme ne se souciait guère de savoir qui était Gaspard, ni d'où il venait. Gaspard jugea bon d'être pareillement discret.
« J'aime les orages, » reprit l'homme. « Aujourd'hui, j'ai vu un éclair qui traversait l'arc-en-ciel. C'est une chose naturelle. Tout de même, pour assister à cela, il faut avoir parcouru bien des lieux dans le monde. Je travaille souvent, mais je me promène encore plus souvent. »
« Vous lisez des livres ?» demanda Gaspard.
« Je lis des livres, je regarde et j'écoute. »
Gaspard se sentait très loin de l'homme aval. Par les trous du toit, on apercevait les étoiles. Il y eut un long silence. Gaspard acheva son morceau de pain. Soudain, il dit,
« Auriez-vous entendu parler d'un jeune garçon ? Il a mon âge, il est blond comme moi, mais il est riche et il a des cheveux magnifiques. »«
Des cheveux magnifiques ? Oui, » dit l'homme. « C'est lui que j'ai dû voir rôder par ici, il y a un mois. Un enfant fugitif, n'est-ce pas ?»«
Un enfant fugitif, » dit Gaspard. « Il cherchait son pays. »
« C'est bien possible, » approuva le vagabond. « Les gens de Fumet, F-U-M-A-Y, c'est une ville des Ardennes, ont parlé beaucoup de lui. Il venait rapidement acheter de quoi manger, tantôt chez un épicier, tantôt chez un autre, tantôt chez un boulanger, tantôt chez un autre. Puis il disparaissait dans les bois. Oui, les gens ont beaucoup parlé. Il y a quelque temps, on l'a vu dans une auto magnifique un matin.
À Fumet ? Demanda Gaspard.
À Fumet. Ici, vous êtes à deux pas de Fumet. Vous tournez le dos au pignon
et vous trouvez un sentier qui descend tout droit sur la route.
Ça ne m'avancera pas beaucoup, dit Gaspard. Il a dû repartir pour Anvers.
On apprend toujours, dit l'homme. Il a pu s'enfuir de nouveau, ou bien il a parlé à quelqu'un. Et quand les gens parlent, on apprend.
Le vagabond semblait trouver que tout était naturel et qu'il suffit d'être curieux pour que le monde se révèle à nous. Il répéta qu'il fallait toujours s'instruire.
« Bonne nuit, mon fils, » dit-il enfin.
Il se leva et alla s'étendre dans un coin de la pièce, là où il y avait un peu de paille. Le cheval s'était couché tout près de Gaspard, et Gaspard, épuisé de fatigue, s'allongea contre le flanc du cheval. Il posa la tête dans les flots de la crinière qui descendait sur le cou et s'endormit aussitôt.
Le lendemain matin, il constata que le vagabond avait disparu. Il avait laissé sur une pierre un morceau de pain. Gaspard le dévora aussitôt. Cependant, le cheval s'ébrouait, puis allait paître sur la lande. Gaspard demeura un long moment assis dans la baraque après qu'il eut fini son pain. Il voyait dans l'ouverture de la porte les herbes baignées de soleil. Sur la lande poussaient quelques bouquets de bouleaux et à 200 pas s'élevait la lisière de la grande forêt. Gaspard admira longuement le cheval pie dont les taches blanches et noires luisaient dans la lumière du matin.
« Et pourtant, il faut que je retourne à l'Homainval, » songeait-il.
Sans aucun doute, Gaspard avait été arraché à sa vie routinière d'une telle façon qu'il se sentait entraîné de plus en plus vers l'inconnu. Il éprouvait, malgré ses craintes, la joie de découvrir des choses qu'il n'avait jamais soupçonnées. Mais il devait regagner l'Homainval coûte que coûte. D'ailleurs, on aurait signalé sa disparition et on le retrouverait de toute façon.
« Eh bien donc, » dit-il au cheval, « nous allons descendre sur Fumet. » Là-bas, on nous parlera peut-être de mon ami d'Anvers. Je retrouverai son souvenir et puis je reviendrai à l'hôtel du Grand Cerf, chez ma tante, Mademoiselle Gabrielle Berlicot.
Le cheval parut écouter ce discours. Ses yeux lançaient des flammes qui exprimaient une certaine méchanceté.
« Non, tu ne seras pas méchant, » dit Gaspard. « Tu reviendras avec moi à l'Homainval. »
Il réussit à lui passer le licou qu'il avait gardé dans sa blouse et il l'emmena dans le sentier qui descendait vers Fumet. Peut-être Gaspard se trompa-t-il de chemin quand il parvint au carrefour de deux allées forestières. Il marcha pendant 2 heures sans rencontrer la route de Fumet ni trouver la moindre indication sur ce pays. Les bois étaient déserts et demeuraient comme des barrières impénétrables. Gaspard, fatigué, se résolut à monter sur le cheval qu'il avait suivi docilement. Dès qu'il fut sur son dos, bien accroché à la crinière et tenant l'extrémité du licou simplement pour la forme, le cheval s'élança dans un galop avec la même ardeur que la veille. Gaspard pensait déjà que par sa faute, il serait peut-être contraint de chevaucher encore tout un jour dans la forêt. Cependant, ils arrivèrent sur une route que le cheval dévala avec une habileté surprenante. Gaspard aperçut de nouveau le fleuve au milieu des immensités boisées des croupes et bientôt, ce fut au bas de la côte, l'amoncellement de maisons d'une ville, Fumet. Le vagabond n'avait donc pas menti. Dès que le cheval eut pris le trot dans la rue pavée, Gaspard tenta de l'arrêter en tirant un peu sur le licou. Le cheval ne tint aucun compte de cet avertissement. Gaspard se suspendit à la crinière avec vigueur, mais l'animal secouait fièrement la tête et continuait son chemin. Il suivit d'abord une rue assez large, puis se perdit dans les voies resserrées avant de revenir vers l'hôtel de ville. Le cheval caracolait joyeusement. Les gens s'ameutaient. Des enfants essayaient de courir derrière le cheval. Gaspard comprit qu'en quelques minutes, tout le pays serait averti de son arrivée et que l'aventure se terminerait dans la honte.
S'il pensait qu'il valait mieux pour lui regagner le Mainval, il préférait accomplir ce retour avec discrétion. Finalement, le cheval traversa un marché où il sema la confusion et la panique. Des hommes invectivaient Gaspard et certains se mirent en mesure de barrer le chemin à sa monture avec l'intention très visible de donner une leçon au cavalier. Gaspard ressentit une soudaine colère et il frappa les flancs de l'animal avec ses talons. Le cheval ne broncha pas. Il se dirigea vers deux hommes apparemment résolus qui s'étaient placés en travers de la rue. Il avança jusqu'à les toucher, puis il fit volte-face et sauta par-dessus un éventaire de légumes tandis que la marchande pirouettait vivement. Après quoi, le cheval enfila une ruelle voisine où il reprit son galop, rapide comme le vent. Il galopa jusqu'à la Meuse qu'il suivit, puis il revint vers les faubourgs, parcourant encore plusieurs rues, à l'étonnement des habitants qui sortaient sur le pas des portes et s'interrogeaient. « Cela ne peut que mal finir, » murmurait Gaspard. « Mon ami, arrête-toi, ou bien conduis-nous dans la forêt. » Le cheval s'arrêta brusquement dans une rue déserte, devant la boutique d'un coiffeur. D'un côté de la boutique, il y avait un magasin de vaisselle, de l'autre, une petite cour. Gaspard sauta à bas du cheval. Aussitôt, il se trouva en présence du coiffeur qui venait de sortir de son officine. C'était un homme affreux, à la chevelure noire et qui avait des sourcils d'une épaisseur considérable. Gaspard le considéra non sans effroi. L'homme lui faisait signe d'entrer et lui indiquait la petite porte vitrée où était inscrit en lettres d'or « Baise-main, coiffeur diplômé ». Gaspard ne savait que faire ni que dire. Le cheval venait de pénétrer dans la petite cour voisine où il avait aussitôt entrepris de tondre l'herbe qui poussait le long des murs. « Votre cheval est en sûreté, » dit le coiffeur. « Donnez-vous la peine d'entrer. Je pense que j'ai l'honneur de parler à monsieur Gaspard Fontarelle. » Gaspard, tout à fait abasourdi, entra sans répondre. Le coiffeur le pria de s'asseoir dans un fauteuil et Gaspard obéit. « Je vais vous couper les cheveux, monsieur Fontarelle, dit-il, et nous parlerons de choses et d'autres pendant ce temps, sans que personne puisse y trouver à redire. »« Vous me connaissez ?» demanda Gaspard. « Depuis ce matin, jeune homme, on vous recherche à Les Fours, à Revin, à Fumet et dans toute la contrée. Votre tante, mademoiselle Berlicot, a donné votre signalement aux gendarmeries des Ardennes. Les douaniers eux-mêmes doivent être prévenus. « Votre cheval pille attire terriblement l'attention sur vous. »« De toute façon, je dois rentrer à l'Homainval, » dit Gaspard, « et vous n'avez pas besoin de me couper les cheveux pour cela. »« Ce n'est pas dit, » répliqua M. Baise-main avec un sourire exquis qui rendait son visage plus affreux encore. « Ce n'est pas dit que vous rentrerez à l'Homainval. Et pour ma part, j'aime bavarder et je m'intéresse à vous. » « Quelle bonne surprise vous me faites que de venir vous faire coiffer par mes soins. Mais je n'ai pas besoin, » protesta Gaspard qui voulut quitter son fauteuil. Monsieur Baise-main le força à se rasseoir, puis il déclara sur le ton le plus aimable et d'un air tout à fait désintéressé. « Il y a un mois, jour pour jour, et à peu près vers la même heure, j'ai donné un shampoing à un garçon aussi blond que vous, mais dont la chevelure était beaucoup plus abondante. Il avait des yeux coupants comme l'acier et purs comme la Meuse. Ne s'appelait-il pas Drapeur ? Demanda Gaspard avec vivacité. Il s'appelait Drapeur, en effet, reconnut M. Baise-main. Fin de la deuxième face de la deuxième cassette, André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, page 58.